juste revenir rapidement sur les petites discussions sportives qu'on avait avant la pause. Vous êtes à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour. Merci à Charles-Étienne, auditeur régulier et renseigné, qui nous rappelle que concernant les technicalités, d'ailleurs, qui sont nombreuses sur les prochains choix au repêchage des Maple Leafs de Toronto, ils sont chanceux de repêcher premier cette année parce que l'année prochaine, c'est Philadelphie qui a le premier choix des Leafs et les Bruins auront le premier choix des Leafs en 2028 à cause de divers échanges qui ont été effectués dans la dernière année. Avez-vous lu l'excellent reportage dans le journal Le Soleil sur la prostitution?
Non.
Vous avez pas... Ah,
j'ai,
super!
J'ai vu le texte, mais j'ai okay. pas pris le temps de le lire.
Non, c'est parce que moi, j'ai appris plein d'affaires, puis je vais vous demander, mesdemoiselles...
Ça, c'est déjà prostitué, non, jamais.
Non, si tu fais 5 piastres... Non, j'aimerais ça que vous fermiez les yeux puis que vous essayiez de vous imaginer quelqu'un qui fait affaire régulièrement avec un service de prostitution. D'essayer de vous imaginer, c'est un gars en couple, c'est un gars seul, c'est un gars de quel âge, puis ainsi de suite. Quelqu'un qui va le faire plusieurs fois par semaine, mettons. Là. Parce que dans le journal Le Soleil, on a fait deux choses aujourd'hui. Premièrement, on nous a dit dans quelle ville ne pas aller se chercher des prostituées, parce qu'il y a juste deux villes au Québec qui travaillent vraiment fort à
éradiquer le, ouais. la prostitution. Ah ouais.
Absolument, il y a deux villes, juste deux. C'est pour les clients, là, c'est Longueuil et Sherbrooke.
Avant de se rendre là, êtes-vous ouais. pour ou contre la décriminalisation de la prostitution?
Moi, je suis pour.
Moi aussi.
Moi, je suis pour.
Je serais pour l'encadrer.
Ouais,
c'est... Mais exactement.
Parce qu'il y aura toujours un besoin.
Le même raisonnement que pour la SQDC, ouais, pour l'alcool.
Exactement. Les affaires sur lesquelles on n'aura jamais de contrôle, autant mettre les chances de notre côté pour protéger les gens.
La prohibition a interdit l'alcool aux États-Unis. L'alcool, le profit, c'est les criminels qui l'ont fait pendant des années, ouais. dans des bars clandestins, exact. Souterrains. Si on veut interdire des choses et les rendre illégales, ben les profits vont aux criminels. Vous allez me dire, quand les criminels puis le gouvernement, des fois, il y a des gros parallèles à faire, mais quand même, mm-hmm. techniquement, c'est mieux encadré. Puis là, on parle pas juste de drogue, tu sais, on parle pas juste de substances illégales, on parle de sécurité de ouais. travailleurs et de travailleuses.
Pour répondre à ta question de départ, on dirait que j'ai toujours imaginé le client typique comme un vieux cochon. Mais ah ouais? je me rends compte avec le temps que c'est des gens souvent qui ont de l'argent.
Qui sont seuls.
Qui sont en complet la semaine.
Qui ont de la misère à tisser des relations.
Mais qui sont aussi mariés et en couple. Puis okay. écoute, c'est peut-être pas ça pantoute, mais j'avais entendu dire qu'il y avait une bonne clientèle de ce côté-là également.
OK. Je vous laisse réfléchir à ça, les auditeurs. Quelqu'un qui est un client régulier de prostitution, ça ressemble à quoi? Mais juste avant, je veux régler le cas des deux villes. Pourquoi c'est juste à Sherbrooke et Longueuil que vous vous faites pogner? Premièrement, il y a combien de personnes qui ont été arrêtées au Québec entre 2020 et 2024 pour avoir sollicité des services sexuels auprès de femmes adultes? On ne parle pas de prostitution juvénile. Là.
Aucune idée.
Je vais dire 200.
C'est 420 au total. Combien en pourcentage de ces 420 personnes ont été arrêtées à Longueuil et Sherbrooke?
90%.
C'est 70%. Okay. Le reste... C'est puis là, pensez-y, là. Tu sais, t'as Montréal,
oui.
t'as Québec, t'as des villes plus grandes là, en superficie où on laisse aller ça carrément. En 2024, Longueuil et Sherbrooke ont réuni 70 % des arrestations de clients. Les 28 autres services de police municipaux de la province se sont partagés le 30 % restant. Vous demandez pourquoi, peut-être, à Longueuil oui, oui. et Sherbrooke?
Surtout Sherbrooke, là.
En fait, c'est que plusieurs services de police ne participent pas au programme des C3S qui fait en sorte que... OK, je recommence. Je suis rendu trop loin dans mon texte, là. D'habitude, je suis bon, je suis pas bon aujourd'hui. Vous l'étudiez? Je suis vraiment pas bon aujourd'hui. Non, c'est vrai. Je suis vraiment pas bon.
Il reste 49 minutes.
C'est intéressant. Restez avec moi, je vous jure, c'est intéressant. Longueuil et Sherbrooke sont les deux seules villes de la province à participer à un programme qui est soutenu par le gouvernement qui vise à diminuer l'achat de services sexuels.
Fait qu'il y a un programme qui existe déjà au niveau provincial. C'est oui. juste que personne n'adhère.
À l'extérieur de Longueuil et Sherbrooke, le client d'escorte est rarement arrêté, à moins qu'il ait commis une infraction jugée plus grave.
La violence.
Violence.
Agression sexuelle.
T'as tout compris. Parfait. T'as tout compris. Ce qu'on dit dans les autres corps policiers, c'est qu'on combat déjà l'exploitation sexuelle en travaillant avec la SQ, mm-hmm. en collaboration, puis ainsi de suite. Mais en même temps, les chiffres font en sorte. Puis t'as deux écoles de pensée aussi, puis ça, c'est peut-être important. C'est qu'il y en a qui pensent que tu vas arrêter le client et c'est là que ça va faire mal. Il y en a qui disent que c'est en arrêtant les pimps que ça va faire mal. Je sais pas s'il y a une école de pensée qui est meilleure que l'autre. Mais moi, je veux vous parler du client qui s'est confié au journal Le Soleil, oh. qui est un client régulier qui, lui, a été arrêté du côté de Longueuil. OK? Un soir d'hiver l'an dernier, un client pousse la porte d'une chambre d'hôtel où une escorte l'attend. Il y a des jouets sexuels étalés sur le lit. On va l'appeler Nicolas, c'est pas son nom. Est un professionnel dans la quarantaine, en couple avec la mère de ses enfants. Mm-hmm. L'inconnu près du lit, il l'a sélectionné sur un site d'annonce classé. Nicolas a l'habitude, depuis 3 ans jusqu'à 3 fois par semaine.
Quoi?
Il se paye des escortes pour pallier le désert sexuel conjugal, assouvir ses fantasmes et ressentir le rush d'adrénaline qui accompagne ses rencontres.
Ça serait, si mettons on fait 52 semaines dans une année, 3 fois par semaine sur 3 ans, là j'ai pas enlevé les fériés et toute la kit, on est à au-dessus de 450 fois.
Ouais.
Et c'est de l'argent aussi, là. Je sais pas comment tu justifies ça à ta
blonde.
Et
probablement que la plupart d'entre vous, vous êtes imaginé un gars célibataire qui a de la misère à faire des rapports humains. On n'est pas là pantoute, là. On parle d'un gars marié avec la mère de ses enfants.
Qui a juste pas de sexe.
Qui a pas de sexe à son goût.
Ouais, c'est peut-être ça aussi.
Puis je trouve ça bien décrit, le rush d'adrénaline de la rencontre clandestine.
Ouais. C'est peut-être un thrill comme d'autres vont avoir un thrill de s'habiller en mascotte, j'imagine, je sais pas.
Ce soir-là, il y a quelque chose qui est anormal. La femme dans la chambre d'hôtel de Longueuil insiste pour qu'il précise ses attentes et dépose l'argent avant. Puis elle s'éclipse dans la salle de bain en promettant de se refaire une beauté. Nicolas songe à déguerpir et il y a des policiers en civil qui sortent d'une chambre voisine, le plaquent au mur, le fouillent, l'arrêtent. La femme n'est pas une escorte, c'est une agente d'infiltration de la police de Longueuil. Nicolas se souvient de son arrestation comme une expérience de mort imminente. Il dit « J'ai vu ma vie dérouler en avant de mes yeux. » Puis là, il devait se dire...
La honte, tout ce qui va venir avec. Hein?
Je veux dire, là, ma femme va le savoir, ouais. Ma famille va s'en aller, puis tout, puis tout, puis tout.
Mais si c'est un professionnel en plus de ça, s'il y a un entourage de travail, exactement.
Après son arrestation, Nicolas a eu un sursis inespéré. Les policiers de Longueuil lui ont proposé de participer au programme de déjudiciarisation en matière d'achat et de services sexuels.
Hein?
Ouais, ça existe, ça. Je n'ai appris des affaires.
Qu'est-ce que c'est ça?
L'idée, c'est de changer les comportements, de faire de la conscientisation, de l'éducation et de la sensibilisation sur l'exploitation sexuelle. Donc,
ils prennent les clients puis ils déprogramment un par un.
Ils déprogramment en échange de fermer le boîte et de ne pas porter d'accusation. Donc, Nicolas, au moment où on se parle, est toujours avec sa femme, est toujours avec sa famille.
Elle n'est pas au courant.
Elle n'est pas au courant.
Oh, Seigneur!
Parce que les actes d'accusation n'ont jamais été déposés, parce que c'est ça le deal. Si tu complètes le programme, une journée de sensibilisation à l'exploitation sexuelle, un suivi avec une sexologue, ben son accusation pouvait être retirée. Nicolas a dit oui tout de suite.
Ben, j'imagine.
Et là, on a sa citation. Il dit « Si ça se sait, ma vie est foutue en l'air. J'étais certain que j'allais aller de l'avant avec cette proposition-là. »
Tu sais, le fameux principe de se sentir intouchable, t'as beaucoup ça chez des gens qui vont commettre des infractions.
Ben,
lui,
oui.
S'est rendu compte que finalement, tout pouvait s'effondrer.
Ben c'est souvent le cas de n'importe qui a un comportement illégal jusqu'à ce qu'il se fasse pogner.
Sais-tu quoi?
Tu sais?
Je pense que je suis en accord avec cette manière de faire-là, dans la mesure où je dois être conséquente. Je t'ai dit que j'étais pour la décriminalisation
ouais.
de ça. Mais moi, dans ma tête, il faut que les clients soient respectueux et toute l'équipe.
Là, je vais être bête comme mes deux
Vas-y.
Pieds. Là. Mais si ton chum voit des prostituées on the side et que les policiers le disent pas, comment tu vas te sentir?
Mais oui, mais là, Denis,
hein?
S'il se fait pas poigner, je suis pas plus avancée, là.
Non, mais tu sais, mettons, m'amener, je sais pas, moi,
oui.
d'une façon ou d'une autre, t'interceptes un message, mettons, chez vous, message vocal de la centrale de police.
Mais tu sais,
là, tu te dis, attends un peu, là, vous l'avez pogné, vous me l'avez pas dit.
Oui, mais je pense que le problème, c'est pas la police, c'est son chum.
Oui, parce que l'objectif de ces accusations-là, c'est pas d'annoncer à sa blonde qu'elle est cocu, là.
Non,
t'sais,
mais
c'est plate, là.
C'est un side quest intéressant, par exemple. Là.
Oui, mais d'un autre côté, puis là, tu sais, mon Dieu, je voudrais pas être dans cette
position-là. Là, on est un an plus tard. OK? Nicolas...
Il en a revu combien?
Ben c'est ça qui est intéressant. Lui, il dit qu'il a la conviction d'avoir cheminé. À travers le programme, il dit qu'il a pris conscience des torts infligés aux femmes dont il achetait les services sexuels et de la compulsion qui le poussait d'une chambre anonyme à une autre à enchaîner les escortes. L'accusation contre lui est en voie d'être retirée, c'est pas fait encore. Nicolas n'a jamais rien dit à sa femme, continue de voir une sexologue. Il dit ses récidives...
Il couche avec?
En échange de 50 $.
C'était facile.
Ses récidives se sont raréfiées sans avoir disparu.
Okay.
Il veut poursuivre le travail d'introspection. Ce que je souhaite à tous les gars qui vont passer à travers ça, c'est de faire la job pour vrai. Ce n'est pas juste de s'en débarrasser parce que tu veux éviter d'avoir un casier. Et quand Nicolas s'apprête à craquer, il songe à la possibilité d'être arrêté de nouveau. Il dit « Je me dis que je n'aurai pas une deuxième chance. »
Bon, c'est un gars intelligent au moins, non?
Jusqu'à ce qu'il se fasse repogner.
Hey, mais je trouve ça particulier.
Ouais, hein?
Puis tu sais, je décriminaliserais ça aussi pour les gens. Puis on a reçu un texto, puis
ah, tellement
c'est drôle,
j'y ai
pensé, mais pour les gens qui ont un handicap. Vous avez sûrement vu cet épisode des beaux malaises, là, où le frère de Martin Matt est amené à une chambre parce qu'il y a des besoins sexuels, puis que sa condition fait qu'il pogne pas. Puis j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans l'open mic avec Mademoiselle V, qui a été la première escorte sexuelle, auxiliaire sexuelle,
ouais, pas escorte,
je vais le dire
auxiliaire
comme ça,
sexuelle, auxiliaire c'est pas la même
sexuelle,
gang,
au Québec. Il y a des programmes en France, carrément, où tu peux étudier, entre autres à Marseille, ce volet-là, si on veut. Mm-hmm. Parce que être auxiliaire sexuel, c'est aider les gens qui ont un lourd handicap, qui ont besoin, les mêmes besoins que toi puis moi, mais qui n'ont pas nécessairement aptitude, finalement, à
mais
pouvoir développer ça.
Est-ce que la fonction, Audrey, d'auxiliaire sexuel pourrait être considérée dans un cadre légal avec des adultes qui ont le deux bras puis le deux jambes?
Qu'est-ce que tu veux dire?
Ben, que n'importe qui veut de la compagnie, qui veut une expérience sexuelle, whatever, qui est encadrée selon le fait que, tu vas payer de l'argent, mais il va se passer telle chose, il se passera pas telle chose, puis que c'est fait dans un cadre légal.
Absolument. Absolument.
Okay,
mais là,
on est tous en même place.
Le problème, c'est qu'auxiliaire sexuel, actuellement, c'est illégal.
Oui.
C'est totalement illégal. Puis là, tu as parlé de ces exemples-là. Il y a eu un documentaire aussi à Canal Savoir qui a été présenté, puis il y avait un certain risque autour de ça, parce que l'auxiliaire sexuelle qui témoignait, c'est une fille qui travaille encore dans ce domaine-là. Puis, tu sais, il y avait eu un film qui avait été fait sur cette manière de travailler-là il y a quelques années.
Pretty c'est Woman, là.
Non, voyons, arrête. Il faudrait que je retrouve. C'était avec Ellen Mirren, c'était super
c'est
bon.
C'est pas
là.
Nécessairement des relations sexuelles complètes, hein.
Ça va-tu faire de la tendresse? Ça va être de la découverte du corps,
exactement.
De plein d'affaires.
Plus de découverte même qu'autre chose. Tu sais, toi, mettons, tu sens plus rien en bas de la ceinture, bien, il y a peut-être d'autres points érotiques sur ton corps, d'autres points plus sensibles, érogènes, qu'on peut utiliser. Mais ces gens-là doivent exister. Puis, par le fait que c'est illégal, c'est hyper tabou. Puis là, ben, tu rentres dans les cordes de santé mentale, rendu là aussi, ça peut aller loin.
Mais encore là, tu sais, il y a des gens qui, avec leur capacité mentale puis avec leur capacité physique, vont aller chercher le même besoin chez une prostituée ou une escorte. Ils vont chercher de la compagnie, ils vont chercher de la confidence, ils vont pleurer des fois parce qu'ils ne veulent pas le faire en avant de leur famille. J'avais lu là-dessus un peu. J'ai trouvé ça fascinant. Puis en même temps, je veux dire, quel est l'intérêt de partager ta vie avec quelqu'un vers qui tu ne t'ouvres pas sur les moments plus difficiles ou sur ce que tu as le goût de faire au lit ou whatever, tu sais?
Là, on a l'air de parler du côté noble de la chose. Quand je suis allée à Amsterdam, je suis allée visiter un musée de la prostitution qui expliquait comment on avait procédé puis qu'est-ce qui avait motivé la décriminalisation. Puis entre autres, eux, c'est qu'ils se sont rendus compte très rapidement que les filles qui commençaient à se prostituer, c'était souvent des filles qui étaient sans papier, qui allaient ramasser de l'argent pour pouvoir l'envoyer à leur famille, beaucoup en Europe de l'Est.
Fait que ça amène un contrôle en même temps.
C'est le contrôle du client. Tu vas faire ce que je veux, quand même que je te violente, quand même que je te viole, quand même que tu me dises non, quand même que n'importe quoi. Puis c'est pour ça qu'on avait amené un certain encadrement. Fait qu'une fille qui veut pratiquer doit avoir des permis, doit ci, doit ça. Fait que ça amène une certaine sécurité-ish. Puis encore là, c'est franchement pas un modèle qui est parfait parce que ça, c'est sûr qu'on est au Québec, là.
Mais oui, c'est il y a le volet exploitation sexuelle aussi.
Tu parlais de Pretty Woman, c'est bien cute, là, la fille qui fait ça pour payer ses études-ish. Mais c'est romancé sur un moyen temps. Mmh. Il y a beaucoup de désespoir là-dedans qui vont faire que tu acceptes des choses que tu devrais jamais accepter dans une vie. Mmh.
Il y a Antoine qui nous écrit puis il nous recommande le podcast « Filles de joie » qui est animé par une travailleuse du sexe et qui a levé les tabous et éduqué une bonne partie de ses clients. Ce sont des personnes en situation de handicap aussi, donc ça peut être intéressant, le podcast « Filles de joie » pour ceux qui veulent approfondir un peu le sujet. Hey, 5h22 déjà à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour.
De l'invasion britannique en passant par le prog, le hard rock, le grunge et le rock des années 2000. Du vinyle au streaming, voici l'histoire du rock dans Gravel dans le retour.
Dans la petite histoire du rock de ce 6 mai, un 6 mai 2020, Florian Schneider décède à l'âge de 73 ans. Il est le cofondateur d'un des groupes les plus influents de l'histoire de la musique et à mon humble avis, c'est un groupe qu'on ne mentionne pas assez, la formation allemande Kraftwerk, qui a amené à l'avant-plan le son des synthétiseurs bien avant la vague qui a envahi les années 80. C'était aussi des visionnaires au niveau visuel. Allez vous promener sur YouTube, vous allez capoter vos vies. Un 6 mai 2015, que c'est intéressant. On a fait une étude scientifique où on a regardé plus de 17 000 chansons à travers les années de 1960 jusqu'en 2010. Mm-hmm. Et selon les scientifiques, on a trouvé trois années où il y a eu de réelles révolutions musicales. 1964, 1983 et 1991. 1964, on parle de l'invasion britannique avec les Beatles, les Stones et ainsi de suite, effectivement. En 1983, on parle des synthétiseurs, des samplers, des drum machines, des drums électroniques.
La sonorité années 80 qui s'est installée.
Exact, où on voit vraiment un changement sonore. Et en 1991, vous pensez peut-être à l'alternative, vous n'y êtes pas. En fait, c'est le rap et le hip-hop qui sont devenus mainstream. C'est ce qu'on considère comme les trois réelles révolutions musicales.
Oui, parce que dans le fond, le grunge puis le hall, c'était juste une transformation d'un rock qu'on connaissait déjà.
Et il y a une autre conclusion de cette étude scientifique-là qui réfute l'idée que depuis 1990, toutes les chansons pop se ressemblent. Donc, comme vous voyez, c'est pas une étude parfaite. Là. Il a peut-être botché un petit peu la fin. Un 6 mai 2015, le chanteur jamaïcain britannique Errol Brown décède d'un cancer du foie à son domicile des Bahamas. Vous connaissez peut-être pas le nom de Errol Brown. Si je vous dis Hot Chocolate, ça vous dit-tu quelque chose?
Oui.
J'espère. Parce que c'est eux autres qui ont fait You Sexy Thing.
Where did you come from,
oh yeah.
Baby? How did you know I needed you? How did you know I needed you so badly? How did you know I'd give my heart gladly?
Il y a 15 ans, jour pour jour, un 6 mai 2011, Korn lançait sa première collaboration avec le DJ Skrillex. Une chanson qui s'appelait Get Up et qui était un réel mélange de genres. Que j'ai adoré d'ailleurs.
Je l'avais oublié, merci.
Comment?
Je l'avais oublié.
Ah, c'est bon au bout, ça. Skrillex et Korn.
Je trouve que c'est vraiment un hot mélange, le metal puis le DM.
En 2002, un 6 mai, j'adore toujours ces sondages-là ou ces études-là. Et là, ben, c'est le Guinness Hit Singles Book qui a lancé un sondage pour savoir en Angleterre les meilleures chansons de l'histoire de la musique. C'est quoi? Au grand numéro 1, Bohemian Rhapsody de Queen. Suivi de Imagine de John Lennon. Hey Jude des Beatles. Dancing Queen de ABBA. Et on termine le top 5 avec Like a Prayer de Madonna. T'as dans la coupée là, hein?
Ce serait poche.
Ouais, là, c'est mieux. Question quiz pour la grande fan d'Oasis qu'est Véronique Bergeron.
Moi, ça?
Ouais, le premier numéro 1 en Angleterre d'Oasis, c'est quoi?
Ça n'a pas été les Forever?
C'est pas les Forever.
Mais c'est une toune de cet album-là, clairement.
Non plus.
Ben, c'est quoi?
Deux mauvaises réponses en deux. Le premier numéro 1 en single d'Oasis... C'est Some Might Say.
Ben voyons donc.
Premier extrait du deuxième album, What's the Story, Morning Glory.
Je comprends rien.
Qui a eu aucun succès aux États-Unis. On est en 1995. On est, tiens donc, un 6 mai. C'est aussi la dernière chanson où on entend le drummer original d'Oasis, Tony McCarroll, qui était pas très bon.
Se retourner au show.
Je sais pas.
On pourrait ça y aller, non?
Ouais, c'est ça.
Il y avait des possibilités.
Un 6 mai 1965, dans une chambre d'hôtel de la Floride, Mick Jagger et Keith Richards commencent à travailler sur ce riff-là. Keith Richards venait juste de s'acheter une boîte à effet Gibson. La chanson qui est considérée comme une des plus grandes chansons de l'histoire du rock. I Can Get No Satisfaction des Rolling Stones.
Tu veux qu'ils sortent un nouvel album?
Oui!
Le 10 juillet, Foreign Tongues, ouais. Leur 25e.
Ça sent un album de collaboration, hein?
Effectivement.
Ouais. Et je veux souligner un anniversaire, d'autant plus qu'on parle vraiment d'un increvable. Il a maintenant l'âge vénérable de 81 ans. Il a fait beaucoup de grosses tunes, Bob Seger.
Ça, c'est littéralement dans le top 5 de mes chansons préférées au monde.
Et les amateurs de Metallica, ben vous en aimez au moins une de Bob Seger parce que ça a été repris par la formation.
See, here I am.
Turn the page.
On the road again.
On va refermer le livre de l'histoire du rock là-dessus.
Up on the stage, here I go. Playing star again. There I go, turn the page. Will you walk into a restaurant strung out from the road?
Coup de rentrée d'un vieux bar poussiéreux dans le Midwest américain. De voir un jukebox plein de toiles d'araignée qui marche plus. De demander du Jack Daniels, puis j'aime même pas ça du Jack Daniels.
Juste parce que ça fit.
Veux juste me donner mal à la tête. On revient. Heures, moins quart, sur les routes, Audrey.
Il y a encore des ralentissements si vous êtes sur la capitale, direction Est. entre Henri IV et Laurentienne, direction ouest, c'est réglé. Si vous êtes sur Henri IV Nord, à la hauteur de l'avenue industrielle, il y a encore un léger ralentissement à prendre en compte. Ensuite de ça, bien, Henri IV Sud, ça se passe principalement entre Charest et les ponts, Duplessis Sud entre chemin Sainte-Foy et les ponts. Et pour ce qui est de la rive sud, c'est la 20 direction ouest, quelques ralentissements à hauteur de la route du président Kennedy, quelques ralentissements à hauteur de Taniata. D'ailleurs, Taniata, il y a des problèmes à la hauteur de la 20. Et Guillaume Couture, ça se passe entre la route du président Kennedy et chemin des îles. Autre chose, 88-971-102, un texto.
Avant de passer en mode hockey, qu'est-ce qu'on doit savoir de cette journée d'actualité, Véro?
On vous rappelle qu'il y a eu un point de presse du maire de Québec plus tôt aujourd'hui. C'était pour donner des détails sur sa mission qui va l'amener du côté de Détroit. Un départ qui se fait dimanche matin où il sera accompagné par 7 entreprises qui participeront à la mission. L'objectif est de mettre en vedette le savoir-faire technologique québécois dans le marché du Michigan. Mais il y a des questions qui ont été posées à Bruno Marchand en lien avec l'accélération du projet de tramway avec le fameux tunnel qui va commencer à être creusé un an en avance. Le gouvernement du Québec qui a annoncé hier soir qu'on débloquait un 55 millions là-dessus. Ça a pris par surprise des commerçants qui s'étaient fait dire par la ville « On va vous avertir rapidement quand il y aura des travaux. » Et là, ils l'ont appris par les médias. On peut peut-être écouter ce que Bruno Marchand avait à dire.
Oui, mais on apprend toujours du jour au lendemain. Là. René Lévesque, à partir du moment où il devient en travaux, puis vous vous souvenez, dans le cas des premiers travaux qui seront faits cet été, c'est la partie ouest, donc il nous amène de l'université vers Belvédère. Et la partie est, à partir de Belvédère jusqu'à la colline parlementaire, la CDPQ Infra vous a parlé de l'automne. Mais à partir du moment où on fait des travaux sur René Lévesque, même à l'ouest, la circulation sur René Lévesque n'est plus possible de la même manière qu'elle est faite aujourd'hui.
Beaucoup de mots en gros pour dire que ça ne changera rien qu'on ait devancé ces travaux-là, mais on se rend compte que la ville est un passager dans le projet de tramway, beaucoup plus qu'un conducteur ou même un leader.
Puis ironiquement, ben c'est ça, c'est le gouvernement qui colle ses shots et après ça, ben c'est Québec qui ramasse la marde puis qui fait les communications au fur et à mesure. Une meilleure collaboration, une meilleure communication entre la ville et la CAQ, ça ferait en sorte que tout ça passerait mieux, mais les canaux ont de l'air coupés.
Exactement. Puis j'ai l'impression que si la ville arrive au front en disant « là, on veut qu'on communique plus », bien, ça va mal paraître sur le plan de « la ville est encore les deux pieds dans le projet ».
Niaiseux, ces guerres d'égo,
oh, là. Tellement, parce que je trouve que c'est les contribuables puis c'est les commerçants qui paient justement dans des histoires de communication, entre autres.
Ça sert absolument personne.
Le RTC qui a fait connaître sa nouvelle grille tarifaire qui va entrer en vigueur le 1er juillet prochain, c'est une hausse moyenne de 3%. Et si on regarde grosso modo les éléments qui retiennent l'attention, le laissez-passer mensuel, pour la première fois, va passer le seuil psychologique du 100$.
Oh, OK.
Il y a pas, tu sais, on passe quand même de 99,50 à 102,50. C'est une augmentation qui, j'imagine, est absorbable. Là, ça fait tellement longtemps que j'ai pas pris l'autobus en achetant pas, mettons, des billets ou l'application. Combien ça coûte un passage si vous le payez en argent?
C'est pas 3,50.
C'est 3,50, toi?
4$.
C'est rendu à 4.
Ça a monté, ouais.
Ben en fait, c'est même pas là, c'est déjà comme ça à ce moment-ci. J'ai tellement hâte au jour où on va s'équiper à travers la province de lecteurs de PayPass pour arrêter de se casser la tête avec la monnaie, les billets, les applications qui changent d'une place à l'autre.
On est 20 ans en retard.
Ah, ben peut-être pas 20 ans sur le PayPass, mais une bonne dizaine d'années en retard.
Ben moi, il y a 20 ans, j'avais des cartes pour aller dans le métro. Là.
Ça, oui, les cartes.
À Boston, là.
Mais le PayPass de ton téléphone.
Ce que je t'explique, c'est être à jour avec la technologie. On a eu le temps de passer 3 technologies d'un métro des États-Unis.
T'as tellement raison. T'sais. Il y a eu une belle confirmation du côté de Mirabel aujourd'hui, alors qu'il y a une commande de 150 avions Airbus A220 qui a été passée par AirAsia. Ça avait commencé à circuler parce qu'on savait qu'il y avait un point de presse conjoint entre le premier ministre du Canada, Mark Carney, et la première ministre du Québec, Christine Fréchette. C'est l'ancienne C-Series de Bombardier. C'est sa plus grande commande. C'est son plus important contrat, en fait, depuis que le C-Series avait été mis en marché. Fait que ça sera assemblé aux installations de Mirabel, puis c'est destiné à des clients à l'extérieur des États-Unis. Le gouvernement québécois détient 25% du programme du A220. Et en terminant, je vous le rappelle, on s'en est parlé plus tôt dans l'émission, Ted Turner est décédé, qui était un homme de médias assez important, décédé à l'âge de 87 ans. C'est à lui, entre autres, qu'on doit l'existence de CNN, donc par le fait même de pas mal toutes les chaînes d'information en continu.
Exact. Tant qu'à être aux États-Unis, c'est une nouvelle qui est du côté de la presse. On apprend que le FBI a ouvert une enquête concernant des problèmes d'alcool et la fragilité de la position de son directeur, Kash Patel. Non, c'est pas ça. J'ai oublié un bout important.
Merci.
Le FBI a ouvert une enquête sur les fuites à l'origine d'un article évoquant un problème d'alcool et la fragilité de la position de son directeur, Cash Patel. Donc, un FBI qui est maintenant un outil politique de propagande de Donald Trump, qui, au lieu d'enquêter sur le fait que son boss est un ivrogne de plus en plus évident.
C'était un article du Atlantic, là, qui avait donné beaucoup de détails sur son pétage de coche quand il n'a pas été capable d'accéder à un ordinateur puis il était persuadé qu'il venait de se faire mettre à la porte.
Ben, on a une enquête pour savoir qui c'est qui a coulé l'information.
C'est ça.
Exactement. Au lieu peut-être de se poser des questions sur le fait que maintenant, publiquement, Cash Patel a de la misère à tenir debout. On l'a vu célébrer avec quelle équipe, là? Il était chaud comme la Pologne.
En fait, c'est avec l'équipe des États-Unis aux Olympiques. Là,
oui, exact.
On l'avait vu faire. Mais tu sais, dans l'article de The Atlantic, on racontait entre autres qu'il a fallu débarquer avec une équipe pour défoncer une porte parce qu'une journée de meeting était tellement chaud qu'il n'était pas foutu de sortir de là. Si vous allez fouiller sur le blvd.fm, on a parlé avec Éric Sauvé qui nous jase souvent de tout ce qui est géopolitique. Denis, t'aurais adoré le segment qu'il a fait sur Cash Patel, qui est un de ses préférés, où il parlait de ses habitudes, entre autres, du côté de Las Vegas, dans des clubs exclusif pour aller boire de l'alcool.
C'est vraiment pas rassurant de voir un homme aussi faible dans une position aussi forte.
C'est surtout que l'inquiétude, c'est qu'un gars qui est en état d'ébriété, tu sais, des fois, vous envoyez un message à votre ex, là. Imaginez, lui a accès à des informations ultra confidentielles qui touchent la sécurité nationale.
Trump me l'a dit hier, ce qu'il va dire demain, puis là, je suis capable d'aller gager là, sur la bourse. Avec mon petit téléphone.
C'est pas rassurant.
D'ailleurs, aujourd'hui, il y avait un point de presse du côté de la Maison-Blanche. Trump a juste montré de quoi ça aurait l'air, le setup pour le match de UFC qui va avoir lieu sur le gazon de la Maison-Blanche le 14 juin. C'est cosmique.
Le ridicule ne tue pas, mais les livres et les documentaires qu'on fera sur le deuxième mandat de Trump, c'est incroyable. L'Amérique va avoir de la misère à s'en relever à de multiples niveaux. Véro, comme bien du monde, t'as commencé la nouvelle série à la mode au Québec avec Martin et Matt.
Oui, puis non, c'est pas diffusé à TVA, à Radio-Canada ou sur Nouveau. C'est Prime Video qui, depuis quelques jours déjà, a Vitrerie Joyale, qui c'est 6 épisodes d'une trentaine de minutes à peu près. Puis actuellement, c'est la série la plus regardée sur Prime Video, pratiquement d'un océan à l'autre tellement ça a été attractif très vite. C'est une histoire qui est inspirée du père de Martin Matt. Martin Matt qui l'incarne. On est au milieu des années 90. On suit un bonhomme mi-fin cinquantaine, qui est propriétaire d'une vitrerie qui est sur le déclin, mais qui en même temps a l'espèce de ressac d'une société qui change très rapidement. La place des femmes, l'arrivée des ethnies, les homosexuels qui sortent du garde-robe et qui sont vus publiquement. C'est franchement divertissant. C'est rempli de clichés, mais je trouve que ça fait du bien de se retourner de bord et de se dire que ça fait pas si longtemps qu'on a vécu ça, surtout qu'il y a une espèce de retour à certains propos qui sont plutôt déplorables. De bons acteurs qui jouent là-dedans, Pierre-Luc Funk qui est, Pierre-Yves Roy Desmarais, Marie-Lise Bourte qui est probablement celle que je trouve la plus scintillante dans cette série-là. Même réalisateur qui a Empathie, qu'on avait beaucoup aimé, fait que la facture est super belle. Puis à tout bout de champ, t'as les personnages qui vont se tourner vers la caméra pour se présenter, pour dire ils sont qui. Avec beaucoup de transparence, ceux qui ont vécu le milieu des années 90, vous allez voir qu'on a mis beaucoup d'amour à bien représenter cette époque-là. Je suis rendue à la moitié de la saison, puis malheureusement, ben, il y a un match de hockey ce soir, fait que je ne le finirai pas. Ce sera une unique saison, il n'y en aura pas deux. Fait que ça, c'est quand même le fun, ça se passe vite. Ouais.
Sur Prime Vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Ensemble, prenons soin des autres. J'espère que le CH va prendre soin de nous autres. Go Habs Go! Marceau s'en vient. À demain, les amis.
Salut!